Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été et l'occasion de réentendre les meilleurs moments d'Accent d'Europe.
Maman, qu'est-ce que j'ai ?
Quelle excellente journée pour un exorcisme.
On pense à des croyances d'un autre âge, mais à l'aube de ce 21e siècle, le diable et l'exorcisme existent bel et bien pour l'Église catholique. À Rome, le Vatican organise même des sessions de formation pour ses prêtres, mais pas seulement, pour toutes les professions, du psychiatre au policier qui pourrait croiser le démon. Reportage à Rome d'Éric Sénanc.
Les images ont marqué une génération entière, celle de Regan McNeil, jeune fille de 12 ans qui souffre d'étranges troubles du comportement et se fait exorciser par le père Merrin, armé d'un crucifix et d'eau bénite. Loin des clichés du film d'horreur culte de William Friedkin, l'exorcisme est toujours une réalité pour le Vatican. C'est même un phénomène en constante augmentation. Rien qu'en Italie, pas moins de 500 000 personnes ont déclaré avoir été victimes d'une possession démoniaque au cours des 10 dernières années. Cet après-midi, c'est un public pas comme les autres qui a pris place dans l'amphithéâtre de l'Institut Pontifical Regina Apostolorum dans le nord de Rome. Depuis 3 jours, un enseignement plutôt inhabituel y est dispensé. Comment chasser le démon chez les personnes possédées? Le prêtre mexicain Javier Ramirez est l'un des organisateurs de cette session.
Quand nous avons commencé, nous nous sommes demandé s'il y aurait suffisamment de public. Et les premières années, il n'y avait qu'une quarantaine d'étudiants pour suivre le cours. Aujourd'hui, on en a 250 et tout est passé par le bouche à oreille. Les gens qui viennent ici n'ont pas de formation adéquate. On a des prêtres, mais aussi des laïcs qui s'intéressent au monde de l'exorcisme, des psychologues aussi. De manière générale, ils cherchent une formation pour soigner des personnes qui souffrent.
Clin d'œil sans doute au best-seller de l'américain Dan Brown, l'une des conférences s'intitule « Anges et démons dans les saintes écritures et les enseignements de l'Église ». Pour devenir exorciste, pas besoin de formation particulière. L'Église cherche avant tout des prêtres qui soient à l'écoute de ceux qui viennent les voir. Les séances sont parfois insolites. Un cardinal albanais présent à ce cours a fait sensation. Il a expliqué que des prêtres réalisaient des exorcismes avec leur smartphone. Lui-même a de nombreuses fois utilisé son téléphone. Il m'appelle, nous parlons, je récite des formules en latin, a-t-il raconté. Le diable et l'exorcisme sont des thématiques très populaires en Italie. TV 2000, la chaîne de l'Église catholique, y consacre même une émission spéciale hebdomadaire. Son titre, Va de Retro.
Va de Retro, il settimanale d'inchiesta di TV 2000 su sette, satanismo, movimenti e gruppi pseudo-religiosi.
Il y a quelques années, l'émission avait montré le pape François bénissant un jeune homme en fauteuil roulant. On voyait le pape lui apposer les mains sur la tête, récitant une prière. Le jeune homme était alors pris de convulsions. TV 2000 en avait déduit que le pape avait pratiqué un exorcisme, une information démentie à l'époque par le Vatican. Invité régulier de Va de Retro, Donaldo Buonaiuto, à 47 ans, ce prêtre spécialiste des sectes sataniques est l'un des exorcistes les plus en vue en Italie. Pour lui, l'exorcisme est une question sérieuse, loin du folklore hollywoodien ou de la littérature fantastique, un rite précisément défini par l'Église catholique.
La prière d'exorcisme concerne ce que l'Église appelle les activités extraordinaires, c'est-à-dire une action particulière des forces maléfiques qui fait qu'une personne est possédée par le diable et souffre terriblement. Les prêtres exorcistes reçoivent un mandat de leur évêque qui leur permet d'exercer ce rite de dépossession. C'est un ministère particulier. Il n'y a qu'eux qui peuvent pratiquer ce rite de la prière d'exorcisme.
Mais comment reconnaître une personne possédée d'une autre qui souffre de problèmes psychologiques? C'est justement l'un des objectifs de ce cours annuel sur l'exorcisme, savoir discerner les possessions maléfiques des troubles psychologiques. Et pour Donaldo Buonaiuto, la frontière est parfois mince.
Il est fondamental que le prêtre exorciste collabore avant tout avec le milieu médical, avec les psychiatres, tous ceux qui doivent d'abord contrôler l'état de santé physique et psychique d'une personne. Le prêtre ne peut donc pas faire n'importe quoi. Il y a aussi des problèmes d'ordre spirituel, de possession. Et là, cela devient très complexe.
Le Vatican prend la question des possessions diaboliques très au sérieux. En 2014, il a reconnu l'Association internationale des exorcistes, un réseau fondé en 1991 en Italie. Aujourd'hui, cette association compte 400 membres, dont 240 vivent dans la péninsule italienne. Pour la première fois cette année, cette formation sur l'exorcisme a proposé un cours sur les pratiques de magie noire en Afrique. De nombreux catholiques du continent sont en effet influencés par les pratiques de sorcellerie très populaires dans leur pays et le Vatican craint que le diable puisse s'y infiltrer.
qu'à l'accueil pour les migrants dans l'attente de leur procédure de demande d'asile. En Bavière, le gouvernement allemand expérimente un nouveau type de camp dont la définition fait polémique. Dans une ancienne caserne, on accueille les migrants qui ont peu de chances d'obtenir leur statut de réfugié. Tout est donc prévu sur place pour permettre une procédure accélérée d'expulsion. Le camp de Manching a ouvert ses portes à la presse. Pauline Curtet s'y est rendue.
Ce n'est sûrement pas ce qu'avaient eu en tête les représentants du gouvernement bavarois lorsqu'ils ont organisé pour les médias locaux une visite du camp de Manching. Au lieu de s'arrêter dans les chambres de 5 ou 6 lits vidés et récurés pour l'occasion, dans les salles de classe sans élèves ou dans la grande cantine, les journalistes se sont retrouvés face à une manifestation spontanée de migrants, pour la plupart nigérians, qui dénonçaient leurs conditions de vie dans le camp. L'un d'entre eux agite un sac plastique rempli de céréales et de pain de mie.
Mais regardez un peu ce qu'ils nous donnent à manger. C'est comme ça tous les jours. Mais regardez, je sais même pas ce que c'est.
Au cœur des protestations de la centaine de migrants venus parler aux journalistes sur les 1100 environ que compte le camp, la nourriture. Ils disent être mal nourris et regrettent de ne pas pouvoir cuisiner eux-mêmes. Mais ce n'est pas là leur seul grief. Pas de cours d'allemand, interdiction de travailler, l'intégration ne fait pas partie des objectifs du camp. Seule liberté qu'ont ses occupants, ils peuvent enfourcher leur vélo pour se rendre dans la petite ville à côté. À l'écart de la manifestation, Edosa Brown, un Nigérian âgé de 23 ans, raconte sa situation.
Je suis arrivé il y a 10 mois, et ici c'est comme une prison. Il y a des gens de la sécurité partout autour de nous, nous ne sommes pas libres. Nous sommes comme des esclaves.
À quelques pas des dortoirs de la caserne, un bureau équipé d'ordinateurs accueille les migrants pour qu'ils déposent leur demande d'asile. Des employés des services de l'immigration allemands sont là pour les aider et lorsque la demande d'asile est rejetée, l'expulsion peut survenir d'un moment à l'autre. C'est ce que craint Asaba, jeune Nigériane dans le camp depuis un an.
J'ai peur que la police vienne me chercher tôt le matin, alors je ne dors plus la nuit, jamais. C'est pas bon pour moi, ils disent que je dois retourner en Italie, mais moi je ne veux pas, il y a des gens qui me menacent là-bas. Je veux rester en Allemagne.
Face aux critiques, les représentants des autorités allemandes veulent tempérer. Pour eux, il s'agit surtout d'aider à l'accélération des procédures. Mais ils rejettent les accusations d'atteinte aux droits de l'homme. Daniel Weidelich est responsable des refuges pour migrants pour le gouvernement de Haute-Bavière.
Comme vous le voyez, on se trouve sur un grand espace avec beaucoup de verdure et de quoi s'occuper. Il est aussi possible pour les migrants de sortir, ils ne sont pas enfermés. Mais ce n'est pas une prison. Bien sûr, ce n'est pas un lieu de vie idéal. Il y a peu d'intimité dans les chambres, par exemple, et je suis sûr que les soldats qui logeaient dans cette ancienne caserne pensaient la même chose.
Le gouvernement allemand considère même que ce camp d'un nouveau genre est un modèle pour le futur. Horst Seehofer, le ministre des Affaires intérieures, a déclaré qu'il voulait le reproduire ailleurs. En Allemagne, ce qui satisfait Daniel Weidelich.
Nous avons réussi à concentrer différentes administrations sur un lieu. Elles travaillent main dans la main et permettent de raccourcir les délais, ce qui est aussi bien pour les migrants. C'est un système qui fonctionne bien. Si quelqu'un veut s'en servir et le reproduire, ça nous réjouit.
D'après Daniel Weidelich, la durée moyenne du séjour sur place est de 4 mois et demi, souvent suivie d'une expulsion vers le pays d'origine du migrant ou un pays de l'Union européenne. Mais elle peut varier. Beaucoup de migrants disent être là depuis plus d'un an. Depuis septembre 2015, 1000 personnes ont été expulsées du camp de Manching et 2500 ont accepté de repartir volontairement après avoir compris que l'Allemagne n'était pas l'Eldorado dont elles avaient tant rêvé.
Les Berlinois découvrent les écrevisses de Louisiane. Après avoir été lâchées dans la nature par des propriétaires indélicats, elles ont littéralement envahi les plans d'eau du Tiergarten, des espèces invasives donc, à tel point que la ville a désormais autorisé leur consommation. Souci écologique ou pro-masculinaire, sans doute un peu des deux, à Berlin, Julien Méchaussy.
Les photos de ces écrevisses à la couleur rouge vif sont partout sur les réseaux sociaux. Des rencontres du troisième type immortalisées par les promeneurs surpris de voir ce crustacé originaire d'Amérique du Nord battre le pavé berlinois. Les premières écrevisses ont été repérées l'été dernier dans le grand parc du Tiergarten, non loin de la chancellerie. Des précipitations abondantes et un hiver plus doux qu'à l'habitude ont offert des conditions parfaites à cette espèce pour se reproduire à grande vitesse. Et si aller à la pêche aux écrevisses en plein centre-ville ne manque pas de charme, les organisations de protection de la nature ont cependant rapidement tiré le signal d'alarme. Longue d'une quinzaine de centimètres et dotée de pinces épineuses, l'espèce invasive peut en effet être porteuse de la peste de l'écrevisse. Inoffensive pour l'écrevisse de Louisiane, cette maladie est cependant mortelle pour ses cousines européennes. Elle est également jugée dangereuse pour la faune berlinoise. Le crustacé est très friand d'œufs, de poissons et d'amphibiens. Mais les gourmets peuvent déjà se réjouir. Les écrevisses berlinoises vont très bientôt se retrouver au menu des restaurants de la ville. L'autorisation a été donnée à une seule entreprise de pêcher l'écrevisse et de la commercialiser. Alors si vous avez prévu de venir cet été dans la capitale allemande, vous pourrez savourer, avec la conscience tranquille, une nouvelle spécialité locale, l'écrevisse berlinoise.
Pression démographique, tourisme de masse, bétonnage, pollution, la Méditerranée est sous tension.
Une forêt surexploitée et une grande bleue au bord de l'épuisement. La mer Méditerranée risque-t-elle de devenir une mer morte? C'est le cri d'alarme que lance le réalisateur Alexis Maran dans son documentaire. La Méditerranée va-t-elle passer l'été? Pression démographique, bétonnage, dégazage, tout contribue à tuer cette mer semi-fermée qui abrite 10% de la biodiversité de la planète. Au micro de Catherine Roland, Alexis Maran souligne aussi l'impact des croisières maritimes.
Quand vous avez un paquebot qui peut accueillir jusqu'à 6000 ou 7000 passagers, vous avez un équipage qui représente presque la moitié des passagers, donc ça veut dire qu'on est un bateau qui a près de 10 000 personnes à bord. Et en plus, il y a toutes ces attractions, les manèges, les casinos, les boîtes de nuit, les salles de spectacle, des patinoires. Vous imaginez la production et la consommation électrique que ça peut représenter. Tout ça, pour l'instant, est principalement encore généré par des moteurs qui fonctionnent au fioul, avec une teneur en plomb et en matière toxique qui dégage énormément de particules fines. On en est encore aujourd'hui à un stade très très polluant.
Ça nous amène au bétonnage des côtes. Et ça a commencé déjà il y a plus de 60 ans, pendant l'Espagne franquiste.
Le pays, à l'époque, était quand même sous-développé en termes économiques et cherchait des ressources. Et ils ont bien compris que le soleil et les plages qu'ils possédaient pouvaient constituer un revenu important. Et c'est comme ça qu'a démarré un peu le bétonnage des côtes avec la Costa Brava, la Costa del Sol. Et puis finalement, ce bétonnage a gagné évidemment la France, l'Italie, et puis maintenant l'ex-Yougoslavie, et puis jusqu'en Turquie, et maintenant même aussi certains endroits en Tunisie. Donc ça s'est énormément développé. On pourrait croire aujourd'hui qu'on en a un peu fini et que les leçons ont été tirées aussi d'une certaine façon de ce bétonnage et les gens peut-être ont de moins en moins envie de se retrouver dans des gros ensembles comme cela. Mais ce qui se passe, c'est que le bétonnage maintenant est beaucoup plus fin et qu'il continue avec des projets un peu plus prestigieux. Donc on comprend bien là que le bétonnage continue.
Et oui, l'appât du gain est tel que certains pays se sont lancés dans de vastes opérations immobilières. Alors vous prenez l'exemple du Monténégro et de la baie de Kotor, où là tout s'allie, hein, le pouvoir autoritaire, la corruption, la mafia.
Ben oui, quels que soient les exemples sur lesquels on se penche, l'appât du gain est toujours plus fort, malheureusement, que la nécessité de préserver l'environnement. Au Monténégro, c'est particulièrement saillant. On est dans une politique d'État avec de forts soupçons de corruption et qui fait que le Monténégro, qui était jusque-là assez préservé, est en train vraiment de se lancer tête baissée dans un bétonnage qui est très préoccupant parce que c'est un peu un des derniers bijoux de la Méditerranée qui, à son tour, est en train de basculer dans le bétonnage.
On continue dans les menaces pour cette Méditerranée, cette mer fermée, il faut le préciser. C'est le trafic maritime, avec tous ces cargos qui croisent. C'est 90% du commerce mondial.
On comprend bien que tout impact écologique qui est porté sur la Méditerranée va être beaucoup plus durable et beaucoup plus fort que dans n'importe quel autre océan. Et en ce qui concerne le trafic maritime, il s'est accru considérablement à cause de la route du canal de Suez, qui représente évidemment un raccourci très intéressant pour les compagnies de fret maritime. Évidemment, je passe sur toutes les pollutions pollutions diverses qu'il peut y avoir à cause des dégazages intempestifs ou des accidents potentiels, évidemment, que ces cargos peuvent avoir à cause de l'augmentation du trafic. C'est ce qu'on essaye de montrer dans les îles grecques.
Oui, d'autant que 20% de ces cargos transportent des matières extrêmement toxiques.
Oui, il y a énormément de cargos chimiquiers, de gaziers qui transitent par là et qui représentent des vrais dangers, surtout quand vous pensez aux chapelets de milliers d'îles grecques qui se trouvent en mer Égée et qui sont pile sur la route du trafic entre la mer Noire et le reste de la Méditerranée.
Alors, autre problème, c'est pas le moindre, c'est la densité de population sur le pourtour méditerranéen, 150 millions de personnes qui vivent sur les rives. Et une telle densité veut dire aussi des tonnes et des tonnes de déchets.
Et en plus, quand on sait que normalement, les projections démographiques font état du fait qu'il y aura 100 millions de personnes supplémentaires d'ici 20 ans, autour de la Méditerranée, on peut vraiment être inquiet. Et évidemment, la question des déchets, de la gestion des déchets et des conséquences de cette présence humaine au sens large sur les côtes est très préoccupante.
L'exemple le plus terrifiant pour moi, c'est Beyrouth. 90% des habitants du Liban vivent sur les côtes. Et on voit ces images absolument terribles d'ordures, de plastique qui effectivement affluent sur les plages venant de la mer.
Oui, il faut savoir que jusqu'à une période récente, il y avait des décharges au bord de l'eau et il y en a encore. Et le Liban a beaucoup, beaucoup de mal à gérer ce problème parce que c'est un pays multiethnique aussi où les divisions sont vraiment sensibles entre les communautés et personne ne veut vraiment accueillir de décharges dans les terres ni d'incinérateurs. La cerise sur le gâteau, et c'est aussi ce qu'on voulait montrer, c'est que la seule solution apparemment qui a été trouvée jusqu'à maintenant, c'est de se servir de ces ordures qui ont été stockés à droite à gauche dans des décharges sauvages ou pas, de les mettre dans la mer, pour faire des remblais. Ces remblais servant eux-mêmes à créer des nouvelles aires gagnées sur la mer pour faire des projets immobiliers. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, puisque nous savons tous que les océans vont être amenés à monter et que donc ces zones qui viennent d'être créées sont potentiellement submersibles d'ici la fin du siècle.
Alors, ce que montre aussi votre documentaire, c'est que heureusement, il y a quand même une prise de conscience de la part de la société civile. De nombreuses associations se mobilisent un peu partout.
C'est vrai qu'il y a un éveil sur les questions d'environnement d'une façon générale un peu partout, y compris dans les pays du sud de la Méditerranée. Après, ça reste quand même très très difficile pour ces associations de se faire entendre et les progrès sont lents et difficiles. Au Liban, vous avez aussi un fort courant, suite notamment à la crise des déchets qui a eu lieu en 2015, où la population s'est vraiment mobilisée à travers plusieurs collectifs. Donc tout cela existe, mais je dois dire quand même que en dehors de l'Europe du Nord, ces associations ont encore beaucoup de mal à faire entendre leur voix.
La Méditerranée passera-t-elle l'été ? Un documentaire d'Alexis Maran. Oubliez vos clichés sur la Suisse, pays de vertes vallées et de montagnes enneigées. La Suisse est aussi le paradis de puissants groupes de tabac. Mauvaise note en matière de santé publique, comme nous l'explique Katia Michel.
Dans le classement de l'Association des Ligues européennes contre le cancer, la Suisse pointe à la 21e place sur 35, loin derrière le meilleur élève, le Royaume-Uni. La Suisse est aussi pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé pour son laxisme en matière de prévention. À Genève, par exemple, un enfant de 10 ans pourrait librement acheter des cigarettes s'il le souhaite. Dans certains cantons de Suisse, rien ne l'empêche. La publicité pour le tabac n'est certes pas permise à la télévision ou à la radio, mais elle s'étale partout dans la presse écrite, dans les arrêts de bus, les bars ou les boîtes de nuit. La Suisse fait également partie des rares pays qui n'ont pas ratifié la convention cadre de l'OMS, dont le siège est à Genève, pour la lutte anti-tabac. Ce qui explique cette exception helvétique, c'est le poids du lobbying. Trois multinationales du tabac sont implantées à Genève et à Lausanne. Japan Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco. Le secteur emploie 13 000 personnes. Et la Suisse produit chaque année plus de 40 milliards de cigarettes. Les retombées totales de l'industrie du tabac sont estimées à plus de 6,5 milliards de francs par an, soit 5,5 milliards d'euros, 1% du PIB. Les associations anti-tabac dénoncent les pressions exercées sur le monde politique par l'influente industrie du tabac. Le paquet de cigarettes en Suisse coûte aujourd'hui 8,60 francs en moyenne, soit 7,30 euros, moins cher qu'en France. À l'heure où l'Europe ne cesse de durcir ses lois anti-tabac, la Suisse reste donc une place forte de la cigarette. Elle en exporte en valeur presque autant que le chocolat ou le fromage.
toute l'équipe d'Accent d'Europe vous dit à demain pour une nouvelle série de rediffusions.